Essayer de vous parler du mouvement végan, c'est un sujet très actuel. J'ai mis à gauche régime alimentaire et régime de la terre. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a un lien fort aussi avec l'écologie. Donc, je commence par cette première vue d'un laboureur dans un village en pleine journée, et ce verset de Genèse 47, verset 19. Le peuple d'Égypte donc s'adresse à Joseph, ce premier ministre miraculeux, qui a réussi à stocker suffisamment de blé pour passer cette année de sécheresse, cette année maigre. Et donc il s'adresse à lui en ces termes: achète-nous et nos terres contre du pain, et nous serons, nous et nos terres, serviteurs du Pharaon. Et donne-nous de la semence afin que nous vivions, ne mourions pas, et que la terre ne soit pas désolée. Évidemment, l'alimentation était essentielle pour l'humain comme pour les animaux. Et ici, donc, les sujets du pharaon vont vendre tout ce qu'ils ont au pharaon contre le blé qu'a su amasser avec sagesse Joseph, qui a su donc interpréter ce songe. Au passage, je voudrais vous préciser que le 11 juin 2020, donc il n'y a pas très longtemps, en France, les parlementaires ont cassé le monopole des semenciers sur les semences certifiées. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, un agriculteur n'avait pas le droit de produire lui-même ses semences. Vous verrez pourquoi je vous en parle. Alors, qui suis-je, que fais-je? C'est la première fois que je participe à BALS. Donc, peut-être si beaucoup ne me connaissent pas, donc je m'appelle Henri Cazajus, j'ai 66 ans. Je suis béarnais, comme Edgar. Je suis marié à une Marseillaise que vous voyez à côté, Myriam. Nous sommes parents de 4 enfants et maintenant grands-parents de 9 petits-enfants. De formation initiale, j'avais fait jeune un brevet de technicien supérieur agricole en production animale, donc c'est ma spécialité, tout ce qui concerne l'élevage, en particulier du ruminant. Et j'avais fait ça en 1980 pour terminer tout au long de ma carrière par une formation l'an dernier à la médiation. Vous voyez comme c'est assez curieux. Je suis toujours en activité pour quelques mois. Ma profession, donc, je suis gérant d'une ferme au sud-ouest des Yvelines, une ferme de 230 hectares de forêt, 140 hectares de surface agricole utile, ce qu'on appelle SAU dans notre jargon professionnel. Avec 48 salariés, 200 vaches laitières, 500 chèvres, 200 ruches, une petite fromagerie de 400 tonnes par an, et enfin un méthaniseur en cogénération électrique, on produit 600 kWh, et tout ceci pour un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Cette ferme ne m'appartient pas, fort heureusement, et bien elle appartient donc on verra un peu plus tard, au fondateur du groupe dans lequel j'ai travaillé. Cette ferme est certifiée ISO 14001, que vous voyez ici en haut à droite. C'est une certification sur l'environnement qu'on a depuis 2006. Puis une certification ISO 22000, qui est une certification sur la sécurité alimentaire, puisqu'on produit des fromages et on exporte 50% à l'étranger. Et dessous ici, vous avez donc la certification sur la forêt, la certification PEFC. Vous voyez donc là nos chèvres, nos vaches et le village derrière, et ici l'unité de méthanisation dans laquelle nous mettons tous les effluents d'élevage et le lactosérum de la fromagerie. Nous sommes certifiés depuis cette année, une année forte pour nous, 2020. Nous sommes certifiés B Corporation depuis le 27 février 2020. C'est une certification sur la responsabilité sociale, sanitaire et environnementale, la RSE. Et nous sommes la première ferme d'Europe à avoir cette certification. Pour imager le propos, nous sommes à 0,73 kg d'équivalent CO2 par litre de lait, versus en France, pour ceux qui s'en occupent, où ils sont à 1,20. Nous sommes aussi certifiés AB, agriculture biologique, depuis le 31 mars 2020, après 3 années de conversion. Ce qui nous a permis donc d'augmenter nos prix d'environ 30%, nos prix de fromage. Alors, je suis aussi par ailleurs conseiller en R2SE, ou RSE, auprès du président de ce groupe dans lequel je travaille depuis 40 ans, le groupe qui s'appelle Savencia Saveurs et Spécialités, soit ses 22 000 collaborateurs sur tout le continent, avec la marque la plus connue qui est la marque Caprice des Dieux. Et puis à la ferme, je voudrais signaler quelque chose d'assez curieux. On a inventé la mécanisation de la rumination par biomimétisme pour introduire les effluents d'élevage dans ce méthaniseur. C'est breveté par AlienPI. Et nous avons multiplié le rendement par deux en copiant ce que Dieu a créé. C'est assez curieux. On pourra en parler si vous le voulez, mais je le mets en option parce que je ne suis pas sûr de tenir le temps. Et en bas à droite, un logo donc qu'on a inventé. J'y reviendrai un peu plus loin. Il est posé sur nos produits. Dans l'entreprise s'appelle Ferme de la Tremblay. Nous sommes au sud-ouest de l'Île-de-France, des Yvelines, pas très loin de Rambouillet. Voilà. Alors, le déroulé de cette présentation, on va d'abord évoquer les trois piliers du développement durable dans la Genèse. Ensuite, on regardera, pour bien donner le contexte dans lequel je fais cette présentation, c'est le régime alimentaire de l'homme et son impact écologique. Et puis, l'agriculture systémique, l'agroécologie, qu'est-ce que c'est? Pour éviter de ne pas arriver à l'image de droite, vous voyez, où l'ours blanc vient rencontrer le Sahel. Mais le cœur de cible reste tout de même le mouvement végan. Et puis on terminera, mais de façon très courte, sur, parce que ce n'est pas moi donner des leçons, c'est plutôt interpeller, sur l'attitude du chrétien par rapport à tout ceci, en particulier nos régimes alimentaires et notre façon de nous comporter vis-à-vis des préoccupations écologiques. Ça va? Tout le monde entend? Tout le monde entend? Tout passe bien?
Oui.
Ça va. OK. Alors, les trois piliers du développement durable, dans la Genèse, chapitre 2, versets 15 à 16, et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, tu mangeras librement de tout arbre du jardin. Je m'appuie sur ma Bible d'enfance et la Darby. Voilà. Donc, trois verbes importants qui caractérisent les trois piliers du développement durable, dont le cultiver, c'est le verbe en hébreu abad, le garder, c'est le verbe shamar, et tu mangeras, c'est le verbe akal. Et donc, j'ai eu la visite d'un rabbin israélien pour être certifié kasher. Il y a plusieurs niveaux dans le kasher, donc on s'est fait certifier au niveau le plus élevé. Donc c'est un rabbin qui est venu d'Israël, spécialement pour valider le cahier des charges. Et donc je vais vous montrer ce que je lui ai montré, ce que je lui ai présenté, c'était le 16 janvier 2017. Je n'ai rien changé. Donc on a en gros dans les trois piliers du développement durable avec Abad, travailler. C'est le pilier social, sociétal, l'un des trois piliers du développement durable. Chamar, confier, c'est le pilier environnemental. Et puis Akal, nourrir. À partir du moment où on nourrit, on peut échanger. Et c'est le pilier économique. En plus de ça, donc, on lui a présenté tout notre travail sur le bien-être animal, avec nos troupeaux de vaches et de chèvres. Et en rappelant ce verset de la parole de Dieu, tu n'emmuselleras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain. Si on veut de la production d'une vache ou d'une chèvre, il faut d'abord bien la nourrir, bien s'en occuper, qu'elle soit en bonne santé. Et puis le côté du sol, avec l'agriculture de régénération qui consiste en trois façons de travailler, c'est de ne pas toucher le sol, on ne laboure plus. On ne laboure plus dans la ferme depuis 13 ans maintenant. Un couvert végétal permanent. Et puis restituer au sol ce que l'on lui a pris. Et donc, ce rappel de Lévitique 25, verset 4, où il faut faire reposer la terre. Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre. Donc Henri IV avait créé la jachère, et dans cette nouvelle agriculture, vous allez voir, on a une nouvelle approche assez révolutionnaire du repos de la terre. Et bien sûr, pour les Juifs qui n'ont pas le droit de manger de sang, on leur garantit l'absence de sang dans le lait par cet appareil qui est un analyseur infrarouge qui est sur chaque poste de traite, ce qui fait qu'on a à chaque traite, deux fois par jour, la quantité de matière grasse, matière protéique, la quantité de lactose et aussi la présence de sang. D'où la possibilité de trier le lait pour éviter d'avoir du sang dans le lait, sang qui peut arriver lors d'une hémorragie dans la mamelle. Et puis derrière, tous les items que je vais passer rapidement sur la traçabilité, on l'a évoqué, notre proximité de Paris, puisque ce rabbin est à même de venir nous surveiller, et pour bien valider que c'est selon les recommandations de la religion. Et puis un atelier fromager de petite taille qui permet donc de séparer notamment la saumure. C'est la solution dans laquelle on sale le fromage. Bien sûr, derrière, il n'y a pas que le marché israélien qui nous intéresse, c'est le mouvement slow food aux États-Unis, puisque 33% de notre production part aux USA. Voilà. Donc, les trois piliers du développement durable, dans Genèse 2, je continue la lecture. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver, pour le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant : Tu mangeras librement de tout arbre du jardin. De ce verset, on peut déjà déduire qu'une première information sur notre alimentation, c'est qu'au commencement, l'homme était donc fructivore. Je passe au deuxième sujet, le régime alimentaire de l'homme et son impact écologique. Donc, vous voyez ici, pour bien planter le décor dans lequel on est, vous avez ici six items qui sont l'impact de l'homme sur de l'activité humaine sur la qualité de l'air, sur l'eau, sur les énergies, sur le réchauffement climatique, sur la réduction de la biodiversité et sur la qualité des sols. Vous voyez que la surface de la production agricole, la surface est à peu près équivalente à l'impact qu'a l'activité humaine sur ces aspects d'environnement. Et vous voyez que l'agriculture a une très grosse responsabilité. Et c'est un agriculteur qui vous le dit, et plus c'est même un éleveur qui vous le dit, puisqu'on a à gauche les productions végétales, à droite les productions animales. Vous voyez que la transformation alimentaire est relativement faible en impact. Il est surtout sur l'eau et sur l'énergie. Le transport, ça peut vous surprendre, mais ne génère pas tant que ça de dégradation par rapport à l'agriculture. Vous voyez, c'est minime sur le mode de transport, la logistique. Ensuite, il y a le commerce, là, donc le retail, le fait de distribuer les produits, avec notamment la réfrigération qui coûte beaucoup d'énergie. Et partout, il y a les pertes et gaspillages qu'il y a en agriculture, qu'on trouve dans la transformation, qu'on trouve dans le commerce. Et puis, on finit par la consommation humaine, avec donc nos façons de nous alimenter, nos choix alimentaires, se déplacer pour les courses, l'énergie qu'on utilise pour préparer les aliments, et bien sûr, pertes et gaspillages des déchets, puis à côté, dans la restauration hors foyer. Voilà. Sur les gaz à effet de serre, donc c'est ça qui inquiète tout spécialement nos responsables politiques, c'est donc, vous voyez que l'effet d'un ménage en France, il est pour 28% dans le logement, d'où l'importance d'isoler nos logements, puis suit ensuite nos déplacements, nos transports, et puis vient enfin les produits alimentaires, qui est à peu près équivalent pour un quart, aux autres, donc il y a beaucoup de choses, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Ça, ce sont des données qui viennent de l'ADEME. Les terres agricoles occupent plus de la moitié du territoire en France. Voilà, et ici, donc, dans ces 23%, la partie agricole, ici, vous voyez, on touche tous les items. Nous sommes les premiers responsables, nous, les agriculteurs, de la dégradation de l'air et de la production. Vous voyez, 9% du gaz carbonique, c'est nous qui le produisons. 37% du méthane, 65% du monoxyde d'azote. Donc, d'où une responsabilité majeure de la part des agriculteurs. 80% de ces gaz à effet de serre sont émis pendant l'étape de production agricole. Voilà, donc d'où on est vraiment le levier essentiel pour améliorer. Donc, après avoir lu donc, Genèse 2, verset 16, « Tu mangeras librement de tout arbre du jardin », en Genèse 3, verset 17 et 19, et Adam, il dit, et Adam, Dieu dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'ai commandé 10 ans, tu n'en mangeras pas. Maudit le sol, à cause de toi, tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie, et il te fera germer des épines et des ronces. Et tu mangeras l'herbe des champs. Et la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Donc le péché entre, hélas, dans le monde, et après le péché, on voit que l'alimentation de l'homme se modifie. Le fructivore, il devient végétarien. Tu mangeras l'herbe des champs. Toujours dans ce verset, je vais souligner, il te fera germer des épines et des ronces. Et c'est là que commencent nos problèmes. À nos agriculteurs arrivent donc les mauvaises herbes, ce qu'on appelle techniquement les adventices. Et c'est là que vont commencer nos problèmes. Donc le labour pour désherber, c'est le principal rôle du labour, c'est de désherber mécaniquement. Les problèmes vont s'intensifier au XXe siècle après la Deuxième Guerre mondiale. Débarquement du tracteur après les tanks et les troupes américaines, ce sont les tracteurs qui sont arrivés. Et puis, pour faire une agriculture productiviste, il faut nourrir les populations, qu'on appelle donc agriculture conventionnelle. Et enfin, retour en arrière aujourd'hui avec l'agriculture raisonnée et le mirage, je dis bien le mirage du bio, avec moins de produits phytosanitaires et l'arrêt du glyphosate, qui est une question aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait tranché. Donc, une adaptation à cette malédiction consiste en une agriculture systémique, donc globale, hein, ou polyculture-élevage, et avec le triptyque de l'agroécologie, dont je vais vous parler tout de suite. Donc, l'agriculture systémique consiste à avoir dans un même lieu la forêt, les grandes cultures et l'élevage. Donc, les trois au même endroit. Et ça, ce n'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, la Bretagne, c'est principalement l'élevage. Les Landes et les massifs forragés, c'est principalement le massif forestier. Et les grandes cultures, c'est la Beauce, c'est la Picardie, c'est les Charentes maintenant. Et donc, vous voyez, on a tout faux en France. Il faut recroiser tout ça pour retrouver une cohérence. Le deuxième triptyque, c'est l'agroécologie, représenté ici par trois arbres. Le premier arbre, c'est le respect du sol et de l'eau. Le second, c'est le bien-être animal. Et le troisième, c'est le bien-être de l'homme. C'est ma définition de l'agroécologie. Il y a beaucoup de définitions de l'agroécologie. Sur le premier, la première partie de ce triptyque, c'est le respect du sol et de l'eau. On a trois principes d'action que j'évoquais tout à l'heure dans l'agriculture de régénération. C'est le non-labour. Ça, c'est une vraie révolution. C'est le couvert végétal permanent pour remplacer le non-labour, puisqu'on va faire de l'ombre comme l'arbre. On va faire de l'ombre pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Et trois, c'est l'association et les rotations des végétaux. Et là, c'est tout le génie végétal qu'on n'apprend plus dans nos lycées agricoles, hélas, et qu'il faut réapprendre aujourd'hui, c'est urgent, avec la production de biomasse sur trois niveaux. Dans le sous-sol par les racines, dans la partie épigée visible, c'est la production foragère, et troisième niveau, qui est la production foliaire des arbres. Et je n'ai pas cité, il y a un quatrième niveau qu'on est en train d'étudier, c'est la vigne foragère. Donc un système extrêmement intensif, mais aussi extrêmement respectueux de l'écologie. Donc vous voyez en haut dans notre logo, qui est posé sur notre produit donc, que j'ai inventé, qui est déposé à l'Institut national de la propriété industrielle. Donc, on a la terre devient un joyau précieux, un diamant, dans la main de l'homme. Ici, c'est un pied de luzerne qui symbolise le bien nourrir les animaux, donc le bien-être animal. Et on rend à la terre ce qu'on lui enlève. C'est-à-dire que pour nous, la terre est considérée comme un animal à part entière. On ne peut pas toujours tirer dessus, il faut lui restituer. Et bien sûr, la main de l'homme, c'est l'intelligence de l'homme pour s'adapter, essayer de maîtriser de mieux qu'il peut ce système complexe. À gauche, je vous mets la formule de calcul, mais ça n'a aucun intérêt si ce n'est que de montrer que le lien fort entre le piège carbone et le taux de matière organique dans le sol. Vous avez ici le taux de matière organique et la quantité de carbone qu'on est capable de séquestrer dans le sol pour éviter de dégrader l'atmosphère et de la fonte des glaces. L'enjeu est colossal. Ça, c'est, je le tiens de Lucien Segui, qui est un agronome pédologue mondialement connu, et qui, hélas, est décédé ce mois d'avril d'un cancer. C'est un ami. L'enjeu est colossal. Pour 1 milliard d'hectares à cultiver sur la planète, soit on a une possibilité de séquestrer 1,5 milliard de tonnes par an de carbone pour une activité humaine qui dégage 700 000 tonnes par an. Donc, si toute la Terre se mettait dans cette agriculture-là, dans l'agroécologie, on est largement capable d'absorber la pollution humaine. Ça, c'est une révolution. Et pour la première fois de l'humanité, l'homme ne serait plus prédateur de son milieu. C'est-à-dire que non seulement il prélèverait sur son milieu, mais en plus, il enrichirait le milieu. Donc, c'est ce que l'on pratique à la ferme La Tremblay depuis maintenant 13 ans. Mais produire des céréales en agriculture de régénération et aussi en bio, c'est impossible. Du moins, dans l'état de nos connaissances à ce jour, c'est impossible. On ne peut pas faire, pour remplacer le glyphosate et maîtriser les adventices, on ne peut pas faire sans le ruminant, qui va nous permettre donc de faire des rotations culturales. Et puis, il nous faut l'arbre pour le bien-être animal. Donc, vous voyez, c'est la cohérence d'ensemble dans une agriculture systémique et qui s'appuie sur l'agroécologie. Donc ici, je vous représente très rapidement et très synthétiquement ce qu'il y a dans le sol, des cloportes, des acariens, des colomboles, des larves avec chacune une fonction, les bactéries, les champignons, les bactéries qui est la version la plus poussée dans la dégradation de la matière organique, et un agent essentiel qui est le ver de terre, les vers de terre, sachant qu'un ver de terre est capable de consommer par jour son propre poids de terre. Dans Myriam, c'est pour moi, c'est à peu près 80 kg, peut-être un peu plus. 80 kg par jour, ce qui est considérable. Donc, on a une activité sous nos pieds absolument extraordinaire et c'est le fruit de la création qu'on sous-estime dans nos pratiques. Alors, pour visualiser très rapidement, ici, vous avez donc un semis direct sans labour. Vous avez ici donc une céréale, un mélange de céréales qui va être donc cassé par ce rouleau dans un tracteur de faible puissance, 150 chevaux, 120 chevaux suffisent, qui va donc casser la plante, qui va la coucher sur le sol et créer un couvert végétal, une bâche végétale naturelle qui va protéger la terre de la battance de la pluie, qui va protéger la terre du soleil, donc empêcher les mauvaises herbes de pousser, et qui va aussi retenir l'humidité de l'eau, de l'air, sous la terre, et éviter que la terre se déshydrate. Et là-dedans, on va semer, avec un appareil spécial, c'est un semoir direct, on va semer directement dans ce couvert végétal, vous voyez ici, on va ouvrir une fente dans le sol, et semer la graine de soja, dans ce cas-ci, avec une distance bien déterminée, pour avoir les rendements suffisants dans notre parcelle. Voilà, très imagé, l'aboutissement de cette technique de l'agriculture de régénération. Pour imager le propos encore sur l'effet de l'ombre, sur l'effet négatif de l'ombre sur les mauvaises herbes, vous avez ici une forêt dans l'Ariège, à côté de Font-Romeu, et c'est là qu'on voit, à l'ombre des arbres, l'adventice n'a place, et la forêt de se défendre, alors, à nous d'apprendre. Et ici, c'est donc à la ferme La Tremblay, c'est mon jeune ingénieur qui va me remplacer. C'est ce qu'on appelle les mini-forêts. Vous voyez, ça lui arrive au nombril, il n'est pas très grand. Ça lui arrive au nombril, et là, donc, on cultive de la moutarde blanche pendant l'hiver. Ce sont les fleurs jaunes qui vont tuer les nématodes, qui sont une racine pénétrante qui vont travailler la structure du sol, qui sont des pièges à nitrates pour éviter que les nitrates descendent dans la nappe phréatique, et qui vont couvrir le sol, donc faire de l'ombre et empêcher les mauvais arbres de s'installer pour la culture suivante. Les fleurs blanches ici, c'est du sarrasin, c'est aussi une plante nettoyante et qui va être favorable pour les abeilles. Et les fleurs violettes qu'on ne voit pas, elles sont dans l'ombre ici, sont les phacélies, qui sont des pièges à pucerons et des mellifères. Donc, vous voyez là, déjà, toute l'intelligence de l'homme pour utiliser, associer des plantes pour préparer le coup d'après, qui est donc la culture qui va suivre. Donc, ici, je vous image la réalité d'une pièce. C'est la rotation d'une parcelle qui s'appelle le haut rondeau. C'est un petit peu plus de 12 hectares. Vous voyez, on va sur, depuis 2012, c'est le parcours cultural de cette parcelle. On a fait la moutarde pour l'hiver, qu'on a donné au sol, puis on a fait un maïs, qu'on a donné aux animaux, plantes entières, puis à nouveau la moutarde pour nourrir le sol, à nouveau du maïs pour nourrir les animaux. Et puis pendant trois ans, on a fait de la luzerne, qui fait les deux, qui nourrit les animaux, et quelle capacité par son système racinaire de fabriquer beaucoup de matière organique dans le sol, qui va être très profitable au bout de 3 ans à un métaïs. C'est un mélange de graminées et de protéagineux qu'on va donner aux animaux, puis du maïs qu'on va donner aux animaux, à nouveau du métaïs, à nouveau du maïs. Mais là, c'est seulement l'épi, donc on va restituer la plante au sol. Et puis, donc, hiver 2019, on fait une faverolle qu'on va donner au sol, un maïs pour les animaux. Et hiver 2020, on fait de l'avoine et de la féverolle pour grainer et faire nos semences, puisqu'on y est autorisé maintenant. Et l'été 2020, donc du colza fourragé pour nos animaux. Donc vous voyez, une rotation qui n'est permise que grâce aux animaux qui vont les valoriser, aux ruminants qui vont les valoriser. Et du coup, nous comptons nos vers de terre au mètre carré. Et vous voyez ici la parcelle du rondeau, donc c'est celle qui correspond à ça. Nous sommes à 53 vers au mètre carré. Alors que vous voyez, sur cette parcelle, on a beaucoup plus de difficultés, on ne peut pas être bon tout le temps. Et ici, donc, l'assolement bio de la ferme La Tremblay pour cette année, où il y a une très grande part donnée donc, aux prairies temporaires, une part relativement importante des prairies permanentes, beaucoup de place à la luzerne. Donc, vous voyez un système fourrager qui ne peut être valorisé que par des ruminants, et puis un petit peu de maïs, et ainsi derrière de l'épeautre et de l'avoine et faverolles. Voilà. Donc, sur votre table, vous avez les trois piliers de l'agriculture systémique. C'est le vin, le pain et le fromage. Donc, le vin est issu de la liane qui s'appelle vigne. Il ne faut pas oublier que la vigne est une liane qui a besoin de l'arbre pour support. Alors, aujourd'hui, on met des fils, hein, mais c'est totalement artificiel. À l'origine, c'était l'arbre qui permettait à la vigne de produire, de s'appuyer sur l'arbre. Le pain, donc, issu des grandes cultures, donc céréalière, donc le blé, et puis le fromage donc, est issu de l'élevage, des productions animales, et le tout au même endroit. Donc ici, c'est notre persillé de chèvre et notre brie de vache fermier. Voilà. Dans la ferme La Tremblay, voilà un petit peu ce à quoi on travaille pour essayer d'inventer. On est en train de préparer un bio à la puissance 3 qui soit beaucoup plus productif que le bio et qui préserve surtout le sol, parce que le bio détruit le sol. Ça va peut-être vous choquer, mais le bio détruit le sol, et le bio va contre la santé de l'agriculteur. Donc, nous avons évoqué le rôle du sol de l'arbre. Nous avons la synergie donc, entre les deux, et comment pallier astucieusement à la terrible malédiction du péché, comme nous, on vit tous les jours, agriculteurs, ce sont les mauvaises herbes, et tout en préservant la biodiversité avec très peu de produits phytosanitaires, le moins possible. Ou comment maîtriser un système complexe qui joue la concurrence ou la complémentarité des végétaux, tout en jugulant les adventices. C'est un métier passionnant, mais extrêmement difficile. Et Pierre-Henri Rideau pourrait vous en parler, parce que lui, il a un BTS de production végétale. Mais comment va-t-on empêcher les épines et les ronces de repousser sur des hectares en Ariège? Ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui du gouvernement, parce qu'il n'y a plus d'agriculteurs, il y a de moins en moins d'agriculteurs, parce qu'il n'y a plus d'élevage dans les zones en déprise. Ça, c'est une vraie problématique française. Et puis, plus largement en Afrique, c'est comment va-t-on nourrir 1 à 2 milliards d'habitants supplémentaires en protéines et en énergie sur des zones pauvres d'ici 2050. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Alors, est-ce que j'ai raté ma cible? J'espère que non. Les végans dans tout ça et la Bible. Que dit la Bible? En quoi la Bible peut nous éclairer par rapport à ce mouvement végan? D'abord, quelques définitions comme un entonnoir. D'abord, envers les flexitariens, c'est un individu qui a choisi de suivre un régime végétarien mais mange néanmoins des produits d'origine animale occasionnellement. Puis il y a le végétarien, qui est un individu qui exclut de son régime toute chair animale, y compris le poisson. Par contre, il consomme du lait, des œufs et du miel. Et puis, de plus en plus dur, on a le végétalien, qui est un individu qui exclut de son régime tout produit d'origine animale, y compris produits laitiers, œufs, miel. Il consomme seulement des végétaux. Et enfin, les végans, qui est un mode de vie de plus grande envergure encore, en fait, une philosophie. Et puis, à la fin, on meurt, c'est pas possible de vivre. Donc, les deux dernières catégories représentent 2% de la population française actuellement, mais c'est un marché qui est en très forte production, plus de 23%. Et puis, les flexitariens, c'est en gros un tiers de la population française. Alors, le mouvement végan, c'est en 1951 que la Vegan Society annonce une définition officielle, le véganisme est la doctrine selon laquelle les humains doivent vivre sans exploiter les animaux. Bon, au passage, on dit que Pythagore, 500 ans avant Jésus-Christ, aurait été aussi végétarien, végan. Donc, viande, lait, objets en corne, sacs, vêtements, chaussures, bioénergie, vous oubliez, puisque donc en 79, la Vegan Society propose que c'est une philosophie, une façon de vivre qui cherche à exclure autant que faire se peut toute forme d'exploitation et de cruauté envers les animaux, que ce soit pour se nourrir, s'habiller ou pour tout autre but, et par extension, faire la promotion du développement et l'usage d'alternatives sans exploitation animale pour le bénéfice des humains, des animaux et de l'environnement. Je les cite. C'est leur point commun avec les antispécistes. Ça, c'est un mouvement qui date de 1970, qui refuse que l'homme domine sur les autres espèces en opposition assumée à la création de l'homme fait à l'image de Dieu. Alors, à leur décharge, à décharge des végétaliens et des végans, il y a quand même une problématique qui est vraie, c'est que pour produire un kilo de viande, il faut 13 kilos de céréales plus 30 kilos de foin. Autrement dit, il faut 10 kilos de protéines végétales pour produire 1 kg de protéines animales. Donc vous voyez quand même une vraie problématique. D'où à l'échelle planétaire plusieurs questions qui se posent, consommation d'espace pour nourrir ces animaux, déforestation, c'est ce qui se passe au Brésil en ce moment, et dégradation des sols par des mauvaises pratiques agricoles, notamment l'agriculture intensive. La production de bétail monopolise 70% de toutes les terres agricoles, et 30% de la surface émergée de la planète. La consommation d'eau, pour produire 1 kg de protéines animales, il faut 100 fois plus d'eau que pour produire 1 kg de protéines végétales. La consommation d'énergie fossile et réchauffement climatique, il faut 25 kcal d'énergie fossile pour produire 1 kg de protéines animales, pour 2,2 kcal pour produire 1 kcal de protéines végétales, en agriculture conventionnelle, raisonnée ou bio. Évidemment. Déchets et pollution, 70 à 80% de l'azote et du phosphore contenus dans l'alimentation du bétail et des porcs sont rejetés dans leurs excréments et leurs urines. Donc, voilà, c'est un état de fait, c'est un constat. On va revenir maintenant sur la Bible et sur ce passage de Genèse 1, chapitre 1, versets 11 à 13. Et on va revenir sur ces 7 jours, ces 7 périodes de la création. Et Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante portant de la semence, l'arbre fruitier produisant du fruit selon son espèce, ayant sa semence en soi sur la terre, et il fut ainsi. Et Dieu vit que cela était bon, et du soir, et du matin, troisième jour. Quatrième jour, et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'il soit pour signe et pour saison déterminée, pour jour et pour année, et qu'il soit pour luminaire dans l'étendue des cieux pour donner de la lumière sur la terre. Et il fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit et les étoiles. Et Dieu les plaça dans l'étendue des cieux pour donner la lumière sur la terre, et pour dominer de jour et de nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon, et du soir et du matin, quatrième jour. Donc Dieu ici installe la rotation de la terre autour du soleil, et la rotation de la lune autour de la terre, et verset 14, qu'il soit pour saison déterminée, et pour jour et pour année, ce qui va être très important pour les végétaux. Cinquième jour, verset 20, et Dieu dit que les oiseaux volent. Alors, le terme hébreu qui est au fait, ce n'est pas que les oiseaux, c'est aussi les insectes ailés Et c'est très important parce que notamment les abeilles les guêpes, qui sont très utiles pour les frelons, ils sont très utiles pour la fécondation des végétaux. Les poissons ne sont pas mentionnés ici, mais chérettes, c'est-à-dire des petits reptiles, des petits insectes. Il n'est pas question de la mer ici, mais des eaux de surface, maïm. Les poissons seront seulement évoqués au verset 26 d'Aga. Et peut-être sont-ils arrivés, mais ça c'est une question, je n'ai pas la réponse, au verset 10, quand Dieu sépare la terre de la mer qui s'appelle Yam, en hébreu. Et on peut lire la petite note de Darby qu'on a en bas de nos Bibles sur Nefesh, et cette notion de l'âme des êtres vivants. C'est seulement le sixième jour, verset 24, où Dieu crée les animaux qui marchent sur la terre et rampent sur la terre, donc les bovins, les ruminants en particulier, mais pas que, les carnivores, c'est toute la faune que l'on connaît. Et c'est donc, et puis en fin de journée, je dirais presque l'homme, verset 26, la création de l'homme à l'image de Dieu. C'est pour servir le cycle végétal que Dieu met en place la rotation de la Terre et de la Lune, jour, nuit, saison, printemps, hiver, effet de la Lune sur la pousse des plantes, et ce seulement au quatrième jour. Commence alors la photosynthèse, ce que l'homme veut reproduire d'ailleurs sur Mars dans quelques années, c'est-à-dire la nuit transformer le CO2 expiré en oxygène indispensable à la vie des animaux. Donc on voit toujours en Genèse 1, versets 20, 21, 24 et 26, et il n'y a pas le poisson. Alors, vous seriez d'accord avec moi pour dire que tout commence par le végétal, par l'arbre, et que vient faire le monde animal dans notre monde d'alimentation, dans notre vêtement, dans nos outils, autrefois nos armes, dans nos énergies telles que la méthanisation, la traction pour labourer avec deux bœufs ou chevaux, labour qui n'avait pas de sens du temps de Jardin d'Éden, puisque les adventices ou les mauvaises herbes n'existaient pas, ou du moins elles n'étaient pas invasives. Dans les versets 29 et 30, l'écrivain du premier chapitre de Genèse résume d'abord le végétal et l'arbre pour nourrir l'homme, puis les animaux ayant une âme qui vont se nourrir du végétal. On n'y voit pas de nourriture à partir de la viande. Dans les végans, les végétaliens auraient-ils alors raison? Seulement le végétal pour l'homme? Mais il y a un problème, c'est que Adam a péché, l'homme pêche. En effet, au chapitre 2, donc je reprends ce passage, dont Dieu plantant le jardin d'Éden, et du côté de l'Orient, il lui plaça l'homme qu'il avait formé, l'étal de lui. Dieu fit croître du sol tout arbre agréable à voir et à bon à manger, l'arbre du vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quatre fleuves parcourent ce jardin, point besoin d'arroser entre ces quatre fleuves qui l'irriguent faute de rosée, donc pas de travail. Il n'y a pas de rosée puisque le déluge n'a pas encore eu lieu. L'homme est dédié à manger du fruit de l'arbre, mais pas de l'herbe, ni les animaux. L'homme est chargé de nommer les animaux, tout comme encore aujourd'hui, nous nommons nos enfants à leur naissance. Mais Adam est seul. Dieu crée alors la femme et chat. C'est alors qu'au chapitre 3 de la Genèse, le péché survient, d'abord par la femme, car l'homme l'a délaissée face au séducteur. Adam va même reprocher à Dieu, au verset 12, d'avoir créé cette femme qui l'a séduit pour le faire désobéir à Dieu. Quel mufle! Mais Dieu n'appelle pas la femme. Il appelle l'homme, verset 9, et l'éternel Dieu appela l'homme masculin, et lui dit, où es-tu? Ça s'appelle la responsabilité. L'homme essaye de se défausser, mais Dieu le tient responsable. Il l'est encore au 21e siècle. La sentence pour l'homme tombe alors, Genèse 3, versets 17 à 18, « Maudit le sol à cause de toi. » Je mets de côté celle pour la femme, je parle de l'homme. « Maudit le sol à cause de toi, tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie, et il te fera germer des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. » Arrive donc les mauvaises herbes, les adventices en termes techniques, en agriculture, et nous voilà partis sur le débat bien actuel du glyphosate, l'empreinte carbone, bio, conventionnel, labour, sans labour, dérèglement climatique, fonte des glaces polaires et nos glaciers, élévation du niveau de la mer et tout le catastrophisme qu'on peut entendre. Et c'est bien pire que la Covid-19, évidemment. C'est l'équivalent de la population mondiale de 1950 qu'il faudra ajouter, je ne sais pas si vous avez bien réalisé ça, qu'il faudra ajouter à l'actuel, soit 2,5 milliards d'humains de plus à nourrir, selon un rapport de l'ONU de 2019, conduisant à près de 10 milliards d'humains d'ici 2050, dont vont se poser les problèmes d'accès à l'eau, gérer les déchets des plus riches, mais surtout gérer les mouvements migratoires, ces richesses étant mal réparties sur la surface de la Terre, avec devant nous des réfugiés politiques qu'on connaît déjà, des réfugiés économiques qu'on connaît déjà et des réfugiés sanitaires. Si en 1946, il y a eu l'après-guerre mondiale, création de l'ONU, le plan Marshall en Europe, d'ici 30 ans, c'est un tout autre challenge qui s'ouvre à notre génération, à celle de nos enfants, pour nos petits-enfants, pour mes petits-enfants surtout. Et je peux vous dire que c'est mon principal souci, ma grande inquiétude pour mes petits-enfants. Les problèmes migratoires liés à ces problèmes économiques, alimentaires, bien sûr, et sanitaires. Alors nous, les chrétiens, qu'avons-nous à dire? Sommes-nous exemplaires vis-à-vis des habitants de notre planète? Ce sera le sujet de Pierre-Henri demain. Le grand confinement, nous a-t-il appris quelque chose en la matière? On va l'aborder. Ne nous dispersons pas, donc revenons sur notre sujet des végans, mais tout est lié. Revenons au texte de Genèse 3, verset 18. « Il te fera germer des épines et des ronces et tu mangeras l'herbe des champs. » Suite au péché de l'homme, Dieu le condamne à manger du végétal, tu mangeras l'herbe des champs. Manger des végétales, c'est une condamnation liée au péché. Mais dans sa miséricorde, devant le malaise d'Adam et d'Ève, Dieu agit en grâce. Chapitre 3, verset 1, « L'Éternel, Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et les revêtit. » Dieu s'oblige à tuer un animal, ou du moins, on donne le principe, puisque Dieu est tout à fait capable de fabriquer de peau, mais il en donne le principe pour vêtir l'homme et la femme qui ont pris conscience qu'ils sont nus à cause du péché. Mais Dieu, cela n'est pas très végan, quand même. Donc, l'homme est créé fructivore. Il mangeait du fruit des arbres dans le jardin d'Éden. C'est à partir du péché qu'il devient végétarien, au sens de manger l'herbe des champs, les légumes en particulier. Alors, les végans auraient-ils raison de ne pas manger de viande ou ne pas tirer profit de l'animal? Ou bien veulent-ils, sans s'en rendre compte, tomber sous la sentence de Dieu, « Tu mangeras l'herbe des champs », sans bénéficier de la miséricorde de Dieu, car la viande est un luxe accordé par Dieu lui-même. En fait, le premier rapport de l'homme à l'animal, en termes d'exploitation du genre animal, commence par le vêtement. Dieu habille Adam et Ève de peau de bête. Mais il y a une évidence anatomique, l'appareil digestif de l'humain n'est pas aussi efficace que celui du ruminant pour digérer l'élément essentiel des végétaux, qui est la cellulose. On ne va pas rentrer dans le détail. L'un est monogastrique, omnivore, surtout carnivore. L'autre est polygastrique, exclusivement herbivore. Et se pose un problème pour les véganistes, c'est encore plus vrai pour leurs chiens ou leurs chats de compagnie qui voudraient transformer un végan et changer leur régime. Et là, c'est impossible de faire ça, ils tueraient l'animal. Donc, Dieu savait que l'homme désobéirait, puisqu'il nous a donné un estomac pour digérer la viande, en même temps que les végétaux, même si le rendement n'est pas très bon. Dieu savait qu'il fallait un jour qu'un agneau soit sacrifié, son fils unique. En fait, que le sang coule en tuant un animal. La viande devient symbole par le sang versé, un luxe. Quel luxe! Dans ce mouvement végan, n'y aurait-il pas une volonté souterraine de nier le péché de l'homme, d'évacuer la miséricorde divine et rêver d'un état idéal qui était celui du jardin d'Éden sur terre, ne se nourrir que de fruits et végétaux dont nier le sacrifice de l'animal, en image celui de Jésus qui vient annuler tous ses sacrifices d'animaux du tabernacle et du temple en mourant sur la croix pour expier le péché de l'homme. L'enjeu est là. Bien sûr que les végans ne se prennent pas la tête avec ça, ils n'en ont que faire, ils n'en sont même pas conscients de tous ces enjeux souterrains que le chrétien, lui, doit lire en filigrane dans la Bible, et ce travers de l'homme de dire à Dieu, même pas peur. Vous voyez qui est derrière tout cela, sans même que ces gens s'en doutent, baignés de bonnes intentions, ne pas tuer l'animal. Genèse 3, verset 1, le serpent était plus rusé qu'aucun animal, des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et dit à la femme, quoi Dieu a dit? Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. C'est le propos de Satan. Quoi? Dieu a dit. Puis des faits vont s'enchaîner successivement dans la Bible, montrant que la viande est un luxe selon la volonté de Dieu. On a l'offrande d'Abel. Je passe très vite parce que j'ai pris un petit peu de retard. Tout le monde connaît ce passage et toute la symbolique derrière qui annonce la mort du Fils unique de Dieu. On a Noé. Là, ça mérite de s'arrêter un petit peu plus parce qu'on a un virage majeur, un virage alimentaire majeur, puisque Dieu remercie Noé de sa fidélité en le maintenant en vie, mais pas que, en maintenant en vie toute sa création. Et un homme hors de son temps, armé d'une foi en Dieu à toute épreuve, va se voir signifier, Genèse chapitre 9, et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre. Et vous serez un sujet de crainte et de frayeur pour tout animal de la terre et pour tout oiseau des cieux, pour tous ceux qui se meuvent sur la terre, aussi bien que pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Je souligne bien, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui est vivant vous sera pour nourriture comme l'herbe est verte. Je vous donne tout. Je vous donne tout. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. La problématique des Juifs par rapport à mon fromage, au passage. Ceci est confirmé dans le Nouveau Testament, 1er Épître à Timothée, chapitre 4, car toute créature de Dieu est bonne, il n'y en a aucune qui soit rejetée, étant prise avec action de grâce. Donc, du fait de la malédiction du péché, l'homme est passé du fruit à l'herbe, puis, après le déluge, Dieu institue la consommation de viande associée à la domination de l'homme sur le règne animal pour remercier Noé. À part la consommation de sang, car symbole de la vie. Tout est symbolique. Ce dernier détail est repris d'ailleurs sur le sang en Actes 15, versets 28 et 29, car il a semblé bon au Saint-Esprit à nous de le mettre sur vous, aucun autre fardeau que ces choses-ci qui sont nécessaires quand ça tient des choses sacrifiées aux idoles, et du sang, et de ce qui est étouffé, et de la fornication. Si vous gardez de ces choses, vous ferez bien. Bon, c'est des restes de la religion juive. Il faut penser que ces hommes à cette époque-là avaient une pression énorme dans cette mutation vers la nouvelle loi en Christ, aimer son prochain comme soi-même. Le mouvement végan voudrait donc nous priver d'une grâce accordée par Dieu. Il veut nous culpabiliser sur le fait de dominer sur le règne animal, le fait de tuer l'animal pour se nourrir. Or, c'est une prérogative accordée par le Créateur, Dieu lui-même. Qui aurait donc autorité sur lui? Quoi? Dieu a dit? Et puis on a l'exemple d'Abraham. On en a parlé ce matin. Donc Abraham, et je citais plutôt ce passage où ces trois hommes qui rencontrent donc Abraham, donc se posaient des questions. Ces trois hommes ont fait des anges ou la Trinité, que sais-je? Car Abraham s'adresse à eux comme à un seul homme. Ils vont à Sodome juger la ville et la dissoudre par le feu. Sodome, tiens, nous voilà rendus à l'homosexualité qui engendre les débats actuels sur la PMA. Et de même, par équité, la GPA, PMA, procréation médicalement assistée, et de même, la GPA, donc la grossesse pour autrui, progrès scientifique et qui n'ont rien de mal en soi, mais c'est le continuum de tout cela qui rend perplexe. C'est le côté systémique, global, horizontal, transversal qui interpelle le chrétien. Et nous sommes des donneurs d'alerte, nous devons être des donneurs d'alerte vis-à-vis du contre-nature, végan. Genre, féministe, homosexualité, mariage pour tous, gestation pour autrui, procréation médicalement assistée, avortement de ce confort, euthanasie, voire suicide légalement encadré, ou choisir sa mort. Où va-t-on? Ouvrons les yeux à nos concitoyens. Ne sommes-nous pas le sel de la terre? Ce mouvement végan en soi est plutôt sympathique. Ne pas tuer l'animal, ne pas séparer l'eau de la mer, qui est aussi une autre problématique à laquelle nous sommes confrontés. On a aussi le cas d'Élie, nourri par les corbeaux et nourri ici, vous voyez, de pain et de viande par Dieu, par l'intermédiaire des corbeaux. Et puis un contre-exemple quand même, c'est Daniel. C'est Daniel donc qui ne va pas se souiller avec l'aimé du roi et qu'on nous donne, je l'ai mis ici, on éprouve, je te prie, tes serviteurs 10 jours, mais 10 jours, pas plus, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et on regardera en ta présence nos visages, le visage des jeunes qui mangent les mets délicats du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu verras. C'est toujours bon d'avoir un contre-exemple. On est ici dans la série des miracles opérés par Dieu pour ces jeunes hommes en situation d'exception. Daniel met au défi l'intendant du roi que même avec un régime exclusivement végétarien, ils peuvent avoir la même santé qu'avec les mets délicats du roi, d'évidence fait de viande sans doute faisandée. Daniel force le trait pour montrer à ses païens qu'à Dieu, tout miracle est possible. Cela continuera avec la fournaise et la fosse au lion, surtout par la révélation de la signification du songe du roi. On ne peut pas tirer de ce fait d'exception une ligne de vie axée sur le régime exclusivement végétalien. Et puis Jésus, l'argument majeur de ce moment de nous prendre par les sentiments sur le fait de tuer un animal et d'en exploiter des produits pour un profit. Comment concilier en effet le bien-être animal pour le tuer ensuite? C'est une vraie problématique. Comment prendre en compte qu'un animal terrestre a une âme, comme cela est indiqué dans Genèse 2? En effet, un animal a une énergie de vie. Il veut se protéger de la mort. Se reproduire est sa priorité. Il a peur. Il manifeste de la joie, de la tristesse. Il sait se venger. Il a de la mémoire. Il peut même défendre notre animal. Je l'ai vu. Il manifeste de l'inquiétude. Par exemple, le cheval, qui a le malheur d'être prédateur d'aucun animal, c'est pour ça qu'il est équipé pour courir vite, fuir, observer ses oreilles, sa queue. C'est un animal qui, quand l'homme s'approche, il pense que l'homme va venir le tuer. Voilà. Et puis, dans un troupeau de même espèce, il y a une hiérarchie qui se crée. Il y a les vaches dominantes, il y a les vaches dominées. Voilà. Les animaux ont une âme, c'est évident. L'Épître aux Romains, chapitre 8, avec ce verset un peu mystérieux, que moi, je n'ai pas tout à fait compris, « Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu, car la création a été assujettie à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujettie, dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, le péché, au jouir de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant. » Un verset bien mystérieux, les animaux n'ont pas péché comme l'homme. Pourtant, ils subissent la conséquence de ce choix d'Ève et d'Adam, comme nous d'ailleurs. Jésus se préoccupe du bien-être animal, comme il indique en Luc 13, 15, par-delà la religion, détacher son bœuf ou son âne pour le faire boire même un jour de sabbat. Christ mange à la table des plus grands, il n'est pas dit qu'il ait refusé de la viande. Et puis après la résurrection, il se fait cuire un poisson, Jean 21, verset 9, on l'a évoqué hier, et c'est en mangeant de la chair que Jésus se fait reconnaître comme ressuscité. C'est quand même pas neutre. Alors, derrière ce mouvement, qu'y a-t-il? Je dis bien qui y a-t-il? On reconnaît l'arbre à son fruit, nous disait Jésus. Quel est leur mode d'action? Illégal. Le 4 septembre 2017, L214, qui est une association végane, condamnée pour intrusion dans l'abattoir de Houdon, c'est tout près de notre ferme. De même pour des faits identiques à Mauléon-Lichard le 18 novembre 2019. Même si leur action a mis le doigt sur des anomalies. Mais ils utilisent des procédés totalement illégaux. Ils ont été condamnés pour cela par la justice française. Illégal, le 27 septembre 2018, l'association antispéciste 269, Libération animale, met le feu à un abattoir dans l'Ain. Illégal aussi, juin 2018, confronté à des violences physiques, verbales, morales de la part de groupuscules et végans, les bouchers charcutiers demandent la protection de la police au ministère de l'Intérieur. Est-ce vraiment un principe divin d'agir ainsi? Ne serait-il pas au contraire des sens sataniques? Ces pauvres gens se faisant berner en toute bonne foi, malgré leur bonne volonté, par un dessein supérieur de nier le péché et ses conséquences, se mettre sous un joug végétalien à l'extrême ou au détriment de la santé humaine, rejeter les bénédictions de Dieu pour l'homme, s'opposer au décret divin quant à la domination de l'homme sur le règne animal, les antispécistes refusant toute hiérarchie entre les espèces, notamment l'espèce humaine et vis-à-vis des espèces animales. Je rappelle le chapitre 9, verset 2, « Ils sont livrés entre vos mains, nous dit Dieu, un affront à la volonté divine. » Et si l'on suit du regard le mouvement sociétal actuel, je suis désolé, mais on arrive à mettre en pièce toute hiérarchie établie par Dieu. Et je rappelle ce verset de 1 Corinthiens 11, « Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ, et que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef du Christ, c'est Dieu. » Regardons les choses bien en face, de façon systémique. Observez le continuum qui se déroule sous nos yeux. Satan veut renverser l'ordre établi par Dieu. Soyons clairvoyants. Et nous, chrétiens, on y contribue, emportés par la vague. Cela commence toujours par des choses anodines. Quoi Dieu a dit? Ne pas manger de viande, le mariage homosexuel, l'avènement de la femme, la PMA, voter cet été en France. Et puis la GPA demain, inévitablement. Quelles seraient les conséquences d'un tel mouvement? J'ai repris un article de Libération, non, ce n'est pas de moi, c'est de Paul Ariès, politologue, c'est d'un journaliste et puis d'une chercheuse en sociologie et directrice de recherche à l'INRAE. Ça date de mars 2018. Et donc, j'ai recopié texto leurs documents. Les végans vont sauver les animaux. Faux. 12 000 ans que les animaux domestiques sont avec l'homme, protégés du milieu sauvage et des rudes lois de la nature. Il n'y a pas pire mort que d'être tué par un loup ou par un ours. Le véganisme va nous sauver de la famine. Faux. Depuis les années 1960, dans l'ensemble du monde, il n'existe plus de famine liée à un manque de ressources. Quel progrès. Celles qui adviennent sont des armes politiques. Nous ne tromperons pas. Le véganisme va sauver l'agriculture. Faux. Le XVIIIe siècle a connu la plus grande révolution agricole qui soit avec l'invention de l'agronomie et de l'agriculture de polyculture élevage, pourvoyeuse de ce qui se fait de mieux pour nourrir un sol, le fumier, contribuant à la vie des sols. Le véganisme va sauver notre alimentation. Faux. Le compost de légumes est bien moins efficace pour faire pousser des légumes que le fumier animal. Sinon, ce serait un travail de forçat, à moins de forcer le sol par de la chimie, les engrais, et de labourer bien profondément avec la dégradation des sols que l'on connaît du fait qu'on perturbe la faune du sol. Le véganisme sauvera notre santé. Faux, absolument faux. Évidemment, l'absence de viande supprime la précieuse vitamine B12 et sans elle, comme le montrent de nombreux témoignages d'ex-végans, ce régime ultra-sain détruit irrémédiablement la santé, à commencer par celle de l'esprit, du cerveau. Le véganisme va sauver l'écologie. Ayant expulsé les animaux domestiques, dont le ruminant, il n'y a plus rien pour maintenir les paysages ouverts, ceux des prairies, des zones humides, des montagnes et des bocages. Les vaches et moutons sont les garants de l'extraordinaire diversité paysagère qui fait la France, la Suisse aussi, je suis en Suisse, je fais attention, je suis à Zurich là en ce moment, la diversité de notre assiette. Donc, animaux et éleveurs sont les premiers aménageurs du territoire. Leur conclusion de ces trois auteurs, le véganisme, ce n'est plus de sale, plus de propre, que de l'esprit sain, alors sain, vous avez vraiment sans le thé, tourné vers une morale ultime, l'amélioration de l'homme par son isolement total de la nature que l'on ne peut maîtriser et qui nous renvoie sans cesse à notre animalité. Oui, véganisme rime avec transhumanisme. Et c'est en quelque sorte baisser les bras. Un monde terrifiant. La consommation de la viande a introduit, dès la préhistoire, l'obligation du partage, l'invention de la logique du don et du contre-don, c'est le pilier économique du développement durable. Car un chasseur ne consomme jamais seul son propre gibier, il le partage. Un fondement de nos rapports sociaux avec les animaux, donner, recevoir, rendre, et le triptyque de nos liens. Que sera l'humanité sans cet échange fondamental? Les actions spectacles de ce mouvement végan, et tout récemment, il y a cet élevage des canards dans le sud-ouest, ont toutefois des répercussions utiles, mais ils sont loin d'être les seuls faisant bouger les filières, l'État, les enseignes de la grande consommation, les industriels, le consommateur. Mise en place d'un contrôle plus soutenu dans les abattoirs. Les députés ont refusé les caméras dans les abattoirs, et c'est certainement dommage. La sensibilisation des consommateurs au bien-être animal, en élevage et dans les transports. Et la pression nous est mise, à nous éleveurs, et c'est une bonne chose. Développement de l'agriculture de régénération, dans ce qu'on appelle la permaculture, le retour du glyphosate à très faible dose, c'est en question actuellement. Sensibilisation des filières d'élevage sur la fin de vie des animaux, et la toute nouvelle loi Egalim permet à l'élevage, c'est la première fois, d'abattre les animaux à la ferme. Donc à ce propos, bon, je vais vous révéler un des sujets sur lesquels je travaille avant de partir à la retraite, c'est l'abattage à la ferme. Et vous allez voir donc ici, donc, vous voyez, c'est un schéma très précis, c'est un abattoir mis dans des containers maritimes avec toutes les cotes qu'il faut. Et voilà ce que l'on vise pour un investissement inférieur à celui d'une salle de traite. Le but est de, en premier lieu, éthique. Pour le bien-être animal, l'éleveur fait naître l'animal et l'accompagne jusqu'à sa fin de vie, et pas l'animal qui part dans un abattoir. L'animal n'a plus à supporter le stress du transport pendant 2 à 3 heures, montée et descente du camion. L'animal est protégé dans l'ambiance d'abattoir, c'est affreux. Il a des ressentis, je l'ai observé. dans ma vie professionnelle, et même de ressentiment, peur, agressivité, fuite, les animaux n'ont plus d'âme. Ça, c'est le document de travail que j'ai mis en place. Humainement mieux vécu pour l'éleveur et l'aide à faire son deuil. Il ne faut pas oublier que l'éleveur s'attache à son animal. Il passe 3 à 10 ans de vie commune avec celui-ci tous les jours, à tout instant. Et il y a aussi, c'est un drame, tuer une vache, c'est un drame pour l'éleveur. Qualitatif avec une viande non stressée, donc ça c'est toute la qualité de la viande et avec une incidence majeure sur la tendreté de la viande. Et économique, en circuit court, pas de transport puisqu'on abat la ferme, pas de transport aller de 160 km à 250 km pour ce qui concerne la ferme La Tremblay, et pas de transport retour pour la viande. Donc là aussi, une logique d'empreinte carbone, le Bicorp oblige. Donc, les conséquences écologiques d'un tel mouvement conduiraient à des zones d'abandon de nos territoires en déprise. Et je voudrais souligner une race de chèvres qui est chère à ton frère Edgar, à Gilles Casaban, qui est un défenseur de la race des chèvres des Pyrénées. Et vous voyez ici dans leur argumentaire, dans les Pyrénées, certaines zones sont difficiles à entretenir, un foncier complexe, parfois peu mécanisé, aux usages multiples, des espaces en déprise, des nouveaux enjeux pour le territoire, dont les incendies, une ressource fragile qui a pourtant de la valeur, d'où le rôle de l'élevage pour préserver ces milieux. Donc, vous comprenez où nous conduisent ces mouvements végans et végétaliens, en particulier sur l'écologie, sur le devenir de nos territoires, mais aussi sur la beauté de nos paysages, par-delà la négation de la pensée divine, bienveillante pour l'humanité. Et puis, on va finir par deux, trois slides sur l'attitude du chrétien. J'ai un petit peu dépassé de 1 minute le temps imparti. Donc, il y a l'attitude. L'attitude, c'est l'état d'esprit qui conduit à une façon d'agir. Et puis, un petit jeu de mots, c'est l'attitude ou la liberté d'agir. Du côté de l'état d'esprit, nous avons l'habitude de prier avant de manger et de sanctifier nos aliments. Luc 24, verset 30, il arriva, comme on nous l'a dit hier soir, comme Jésus était à table avec ses deux hommes, ses deux disciples d'Emmaüs, Jésus prit le pain et il bénit. Et l'ayant rompu, il le leur distribua. Pensez bien sûr à remercier Dieu. Acte 27, verset 35, on est sur un bateau, dans une tempête, la situation est dramatique. Et puis Paul prend du pain et il rendit grâce à Dieu devant tous et l'ayant rompu, il se mit à manger. Et tous se mettent à manger derrière lui et reprennent des forces. Mais il rendit grâce à Dieu devant tous. À ce propos, parfois j'ai du mal à rendre grâce devant tous dans un restaurant. Il faut que je me fasse un peu violence. Acte 14, verset 15-17, « Le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre et la mer, et toutes les choses qui y sont, en faisant du bien, en vous donnant du ciel, des pluies et des saisons fertiles, remplissant vos cœurs de nourriture et de joie. » Éphésiens 5, verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Romains 14, « Celui qui mange, mange à cause du Seigneur, car il rend grâce à Dieu. » Du côté de la liberté d'agir, Acte 10, verset 11, il voit le ciel ouvert. Donc Pierre est là, c'est une révolution pour lui, c'est même dramatique. Il doit abandonner la loi juive pour la loi de Christ, qui est présente dans le Nouveau Testament. Et il voit le ciel ouvert et un vase descendant comme une grande toile liée par les quatre coins et des vallées en terre dans lesquelles il y avait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, les cochons, tous les angles divisés et les oiseaux du ciel. Et une voix lui fut adressée disant, lève-toi Pierre, tue et mange. Colossiens 2, verset 16, que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire ou à propos d'un jour de fête ou de nouvelle lune ou de sabbat. On peut même manger halal, à mon sens, puisque ça n'a aucun sens vis-à-vis de Dieu. 1 Corinthiens 8, si nous ne mangeons pas, nous n'avons pas moins. Et si nous mangeons, nous n'avons rien de plus. Mais prenez garde que cette liberté que vous avez ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Ma liberté s'arrête à la conscience de l'autre. Romains 14, l'un croit pouvoir manger de toutes choses, l'autre qui est faible mange des herbes, que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a reçu, n'est-ce pas l'amour de son prochain. Donc, alors, où est-ce que nous en sommes? Nous arrivons à la fin. Végan, je dis non. Végétalien, je dis non. Végétarien, pourquoi pas. Flexitarien, sans doute. Omnivore, par nature. Et puis la dernière revue, quelques suggestions sur l'attitude du chrétien et l'expérience à tirer du grand confinement. Je ne veux pas donner de leçons. Je dois balayer devant ma porte, mais je vous lance là quelques idées, quelques sujets de réflexion. Est-ce raisonnable de consommer des produits importés par avion? Est-ce raisonnable de consommer des produits qui ne sont pas locaux? Je pousse le bouchon là un petit peu plus loin. Est-ce raisonnable d'avoir une voiture, un bateau, un tracteur de 150 chevaux et plus? Je parle bien d'un tracteur de 150 chevaux. Aujourd'hui, on a des tracteurs de 200, 300, 400 chevaux. C'est une gabégie, un non-sens. Est-ce raisonnable de prendre ses vacances sur une plage à 11 heures d'avion de chez soi? Est-ce raisonnable de prendre sa voiture pour aller à moins de 5 km chercher son pain plutôt qu'en vélo? Est-ce raisonnable de consommer des légumes ou fruits hors saison, des cerises à Noël, par exemple, importées d'Australie? Est-ce raisonnable de consommer de la viande à chaque repas et même quotidiennement? On en parlait ce midi avec ma belle-fille ici. C'est une vraie question. Est-ce raisonnable d'aller au bureau 5 jours par semaine pour ceux pour lesquels le télétravail est possible? C'est une vraie question qui se pose dans mon groupe d'ailleurs, et je ne vous cache pas que je mets une forte pression à Alex Bongrain pour qu'on aille vers le télétravail, parce que c'est écologiquement responsable. Et puis, est-ce raisonnable de prendre sa voiture pour aller à la réunion de prière en semaine plutôt que de le faire par Zoom? Voilà une vraie question dans notre attitude de chrétien. Est-ce que je dois sortir ma BMW, ma grosse cylindrée, ma Peugeot 3008 pour aller à la réunion alors que je peux le faire par Zoom? Voilà, est-ce une attitude chrétienne de... Je vous laisse compléter la liste à chacun de se poser la question. Voilà, donc j'en arrive à la fin. Désolé, j'ai dépassé de 7 minutes, Guillaume. Donc, le labour, non, plus jamais ça. Et puis, ce petit mot d'humour que j'ai trouvé sur Internet, cet homme s'adressant à Dieu, mais vous avez fait l'homme à votre image, est-ce que ça veut dire que nous sommes une sorte de publicité de vous-même? C'est assez amusant. Voilà.
Merci Henri. Tu peux arrêter peut-être ton partage de...
Ouais.